retourne fin août au Cabaret Vert pour une interview spéciale de The Inspector Clouseau. Ce n'est donc pas un throwback Thursday, mais un throwback Wednesday aujourd'hui avec les Rock Farmers. Au programme, une interview fleuve entre rock'n'roll et agriculture, musique business et indépendance. Pour ceux qui ne le savent pas, The Inspector Clouseau jongle entre concerts déchaînés aux quatre coins du globe et l'exploitation d'une ferme en Gascogne. Un documentaire expliquant leur démarche fut diffusé au Cabaret Vert juste avant leur concert. On s'écoute l'interview qui en découle, menée de main de maître par Antoine et Pierre-Olivier.
Avec Mathieu et Laurent de The Inspector Clouseau, on vient de vous voir dans le cadre de la diffusion, pendant le Cabaret Vert, d'un documentaire sur vous et votre ferme, Lucas. Vous en êtes où? Nous, on vous avait rencontré il y a 3 ans déjà, vous étiez au début de cette aventure. Vous en êtes où à la ferme? Est-ce que vous avez fini de la rénover? Est-ce que vous vivez dedans déjà?
Alors, on est où on en est 3 ans plus tard, la ferme est de plus en plus fonctionnelle, je dirais. C'est-à-dire qu'on continue les rénovations, c'est-à-dire qu'on ne vit pas encore l'hiver dedans, mais l'été. Voilà, l'exploitation, on a mis d'abord la priorité sur l'exploitation, c'est-à-dire donc la culture de céréales, maïs et blé pour nos oies, sur un champ qui est attenant. Et les oies, donc, elles paquent dans les prairies, donc on fait tourner en fonction, dès qu'il n'y a plus d'herbe, on change de prairie, etc. Donc tout ça est en place avec une salle agavée qu'on a améliorée, etc. au fil des ans. Et on a toujours, tous les ans, notre potager, voilà, qui sert à nourrir nos 3 familles. Et la maison est en train de se... Là, il y a une douche maintenant, donc c'est le luxe. Un poêle qu'on va inaugurer cet hiver, donc peut-être qu'il fera un peu moins froid. Voilà. Mais voilà où on en est. On ne vit pas encore tous dedans, mais Laurent et Nathalie, ils vivront d'ici peut-être au printemps prochain. Voilà.
Le but de cette ferme, c'est de se nourrir, vous le dites. Est-ce que vous avez l'intention d'aller plus loin? Je sais que vous faites les marchés c'est plus pour vous faire connaître. Est-ce qu'il y a un but financier aussi? Peut-être que vous pourrez avoir le luxe d'arrêter la musique plus tard, si vous pouvez vivre de ça, Laurent?
Alors en fait, non, c'est pas trop ça. Il y a 2 buts à la ferme. Il y avait un, être autonome alimentairement parlant. Et ça, c'est non commercial. Et il y a un truc qui nous tenait à cœur, le deuxièmement, qui est l'élevage et la production d'oies, Gascogne. Parce que c'est un goût qui était en train de disparaître et ça nous tenait à cœur de le faire perdurer pour après aussi le transmettre à des jeunes si un jour ils veulent apprendre. Donc les oies au marché on ne vend pas les produits qu'on fait pour nous pour manger tous les jours. Ça c'est que pour nous et nos voisins. En gros, on donne des poulets, des œufs, des machins à tous les gens qui passent à la ferme pour résumer. Tu vois. Mais par contre au marché on vend nos oies. On vend les confits d'oies, les foies d'oies et tout ça et on se fait dépouiller parce que comme c'est fait à l'ancienne. C'est un goût qui rappelle, c'est un peu la Madeleine de Proust, quoi. Ça rappelle un peu beaucoup de souvenirs à beaucoup de gens. Parce qu'on a appris à faire les oies comme ils le faisaient dans mes arrière-grands-parents, avant la guerre.
C'est quoi la particularité?
Il y en a plusieurs. C'est déjà, on les amène beaucoup plus vieilles qu'ailleurs. On gave une oie, nous, entre 8 et 9 mois. Ailleurs, c'est 3 mois, dans le meilleur des cas. Donc déjà, 8-9 mois, tu vois, c'est quasi un an, donc c'est un an de travail. On les fait naître. La deuxième particularité, c'est qu'elle ne mange quasi jamais d'aliments, à part le premier mois. Elle ne mange que, ces demoiselles, que du blé entier bio à pain. Du blé à pain, qu'on pourrait manger nous. C'est pour ça que notre blé, c'est sacré, c'est pour elle. Et notre maïs bio, qui est séché dans le crip, qu'on voit dans le docu, à l'ancienne. Et après, on les gave. Alors ça, la particularité est vraiment là. Et après, elles sont 100, sachant qu'on en a 200, elles sont 100 sur 1 hectare. Elles ont vraiment un sentiment de liberté. Et elles, c'est une pente. Donc en fait, t'as l'eau en haut. Et la bouffe en bas. Donc elles passent leur temps à voler et aller chercher, à faire des allers-retours, elles se musclent quoi. Et après, le gavage est traditionnel, c'est-à-dire que c'est un gavage qui se fait encore chez nous, mais qui a disparu, qui devrait être expliqué à tout le monde. Ça arrêterait de créer des boulimiques débiles. C'est la chaise, c'est à la main, et c'est 10 minutes par oie. Et c'est 2 heures à chaque voyage.
Oui, parce qu'il y avait des militants. Voilà, qui boycottait le documentaire. Vous avez discuté avec eux, non?
Non. Après, en général, nous, on n'a pas de problème avec ces gens-là. Je pense qu'ils ont compris qu'on n'était pas leurs ennemis. Parce qu'on poursuit un même but. Le problème, c'est pas manger ni des légumes ni de la viande. Le problème, c'est de lutter contre l'industrialisation de l'agroalimentaire et certaines compagnies. Je dirais même plus que qui sont souvent ces gens-là de façon, enfin ces militants, qui sont sincères, mais de façon un peu maladroite. Ils sont souvent le vecteur, l'allié des grandes compagnies comme Monsanto et tout ça. Évidemment, ils ne sont pas financés par eux et tout ça, mais ils les aident. Ils les aident à culpabiliser tout le monde à manger de la viande. Parce qu'évidemment, ça sert qui ? Qui c'est qui veut qu'on mange que des légumes ? C'est Monsanto, Bayer, la Syngenta, etc. C'est pour ça qu'ils achètent des terres partout, etc. Les choses sont beaucoup plus tempérées et équilibrées que ça, et on le sait tous ceux que vous venez de Bourgogne, vous venez de Gascogne. Un animal a une fonction dans un écosystème. Évidemment, il ne faut pas le trucider, et on n'est pas obligé de manger de la viande de mer tous les jours. Voilà, les choses sont beaucoup plus équilibrées, c'est aussi simple que ça. Parce que manger des légumes à pesticides, c'est bien pire que manger de la viande tous les jours. Hein. Donc, bon, bref. Non, on n'a pas de problème avec ces gens, et en général, il y en a beaucoup d'ailleurs qui sont surpris, il y en a certains qu'on invite à la ferme. Ils hallucinent sur le gavage. Ils hallucinent. Parce qu'au début, ils sont hyper. Bon, ils ont des. C'est normal, hein, parce que sur le sujet, il y a beaucoup de manipulation par les deux camps. Hein. Par le lobby du foie gras, qui dit que des conneries. Parce que les deux solidarisent complètement de ça. Et par le lobby animalier, qui dit que des conneries aussi. La vérité est vraiment au milieu. Et c'est par les gens qui n'ont aucun intérêt financier derrière. Nous, on n'a aucun intérêt financier. Moi, j'accepte pas qu'on dise que le gavage traditionnel fasse mal aux animaux. C'est faux. Le gavage industriel fait mal aux animaux. Oui, c'est évident et il faut l'arrêter. Par contre, le fait qu'on gave des bêtes pour les engraisser, c'est une histoire, c'est une raison. Je ne vais pas développer ici, mais c'est lié à quelque chose de très fort et ça a permis à nos ancêtres mais de survivre. Parce que s'il n'y avait pas eu le gavage, donc l'engraissement, ils seraient morts de faim. Voilà. Peu de gens le savent, parce que le foie, c'était pas pour eux, c'était pour le maître. Hein. Il dégageait le foie, c'était pour faire les rillettes. Et t'as pas de rillettes si tu engraisses pas. C'est aussi simple que ça. Parce qu'ils avaient pas de cochon, ils étaient pas assez riches. Donc l'oie, c'est sacré chez nous. Voilà. C'est sacré. Les gens qui avaient du cochon, c'était les riches. Enfin, c'était des gens un peu plus aisés déjà. Bon, voilà. Donc on n'a pas trop de problèmes avec ces gens-là. De toute façon, on poursuit un peu le même but. Hein. C'est construire une nouvelle société, etc. Mais comme je l'ai dit quand même dans l'intervention et comme je le dis sur scène, on n'a aucune volonté d'imposer nos vues, on n'a aucune volonté de dire à tout le monde il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Nous on fait comme ci, comme ça, c'est nos convictions, donc on les met en application. Comme ça, ça permet aussi de voir à tout le monde, ça fonctionne là ça fonctionne pas, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Il n'y a aucun modèle qui fonctionne parfaitement. Et du coup, s'il y a des gens qui ont des questions, que ça intéresse, on ouvre complètement les portes. Voilà. Donc il y a beaucoup de gens qui sont venus au gavage et repartis complètement en disant c'est ça le gavage. Et j'ai dit, à la base, c'est ça. Malheureusement, partout ailleurs, c'est pas ça. Voilà.
Tout à l'heure, pendant la discussion, après la diffusion du docu, je crois que tu as dit que tu n'aimais pas le mot bio, l'appellation, la sémantique. Pourquoi ?
Parce que comme tous les mots, comme le mot écologie, comme le mot capitalisme, comme le mot communisme, ce sont des mots qui ça finit toujours en idéologie ou éthique. J'ai lu tout à l'heure, ceci n'est pas éthique. Mais on a chacun notre définition de l'éthique. Et chaque culture a une définition différente de l'éthique. Donc, il vaut mieux pas employer ces mots-là et faire un peu de tout. Voilà. Nous sommes des capitalistes locaux, parce qu'on est entrepreneurs. Ouais. Par contre, on est bien communistes, parce qu'on le partage le plus qu'on peut. Nous sommes aussi des écologistes, puisqu'on vit avec ce qu'on a sur place, et pas ce qui arrive de l'autre côté de la planète, etc. Donc, en gros, concrètement, on fait chier personne et on ne pollue rien pour se faire manger. Et on est tous à la fois. Enfin, voilà. Et après, on respecte les chasseurs chez nous parce qu'on sait très bien qu'on en a besoin parce qu'ils défoncent nos cultures. Voilà, bon, les choses sont beaucoup plus. Donc, le mot bio est devenu un label. Alors, ça part d'un excellent sentiment, mais c'est devenu un label. Il y a les mêmes supermarchés bio. C'est à nouveau du productivisme. À partir du moment où on parle de productivisme en agriculture, on refait les mêmes bêtises. On ne peut pas faire 5000 hectares de patates bio. Pourtant, c'est ce que, soi-disant, on fait. Ça n'existe pas. Ça pose des gros problèmes écologiques, ça. Parce qu'il y a des parasites qui se développent. Voilà. Et la polyculture, ça a quand même des trucs. Donc, c'est une étape. Mais si c'est pour remettre en place les mêmes systèmes, avec les mêmes gens derrière qui se font la même thune, etc. Non, c'est toute une façon très différente, très locale. Vous faites une radio associative. Pour nous, c'est du bio. Tu vois, le festival, c'est du bio. Luxeuil, chez nous, le festival musical à la rue, c'est du bio. C'est des locales. La ferme Lucas, c'est du bio. Le stade Montour Rugby, c'est du bio. C'est des gens qui sont cohérents. Et peu importe que tu fais 200 000 personnes ou machin. Ce qui est intéressant, c'est la cohérence des projets, l'authenticité des projets. Après, ce n'est pas nous qui allons porter des jugements de valeur en disant éthique, bio, capital. C'est bon, ça va, on est tous bac plus 50, on est un peu au-delà de ça quand même, voilà. We'll be right back.
nous écoutions la chanson bien nommée Rock Farmer de The Inspector Clouseau. Retour à l'interview.
Vous êtes super indépendant, vous produisez les choses vous-même, vous êtes indépendant dans la musique aussi. Et on était aux Eurockéennes, alors c'est vrai que là on est au Cabaret Vert, c'est un peu différent. On était aux Eurockéennes et les Eurockéennes c'est aussi c'est Samsung, c'est Heineken, etc. Vous maintenant vous êtes un groupe qui est connu, qui tourne, qui fréquentez aussi ces milieux-là, qui ne sont pas les mêmes que le Cabaret Vert. Comment vous arrivez à jongler avec ce côté un peu Big Brother de la musique, quoi?
En fait, les Eurockéennes, c'est un festival qui est quand même financé à 70% par la billetterie. Donc pour nous, pas de problème. Ce n'est pas la propriété d'un tourneur. Donc a priori, pas de problème. Les choix qu'ils font sur leur marque, ça leur appartient. Je ne porterai pas de jugement de valeur. C'est ce que je te répétais tout à l'heure. Nous avons joué pour le Download cette année qui appartient à Live Nation. Ça ne nous pose aucun problème parce que c'est des capitalistes qui s'assument. Par contre, ce qui est au milieu nous pose problème. Live Nation d'entrée, ils te disent on vous fait venir parce que vous faites venir du monde et on veut faire de la thune. Pas de problème. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est clair. C'est pas ma façon de voir la société avec Mathieu, mais c'est très clair. Tu sais où tu mets le pied. D'ailleurs, on a été extrêmement bien traité par Live Nation. Beaucoup plus que par plein de festivals, pseudo cool, machin, qui font la course aux têtes d'affiche et qui se mettent en courbette pour avoir leur tête d'affiche. On avait la même loge que Jane Addiction. Ils ont fait exprès. Hein. Donc voilà, non, là, c'est. Par contre, là, je te dis, là où on a vraiment un moyen d'action, c'est que là, on a refusé de faire une pub au Japon pour une marque de café. Ça, non. C'est, non. Voilà.
Refuser une date de concert parce que. Vraiment, vous sentez que ça...
Bon, on le fait, hein.
Ça vous arrive.
On le fait, on ne jouera jamais au Garo Rock, par exemple. Jamais. Par contre, on jouera toujours à Luxeuil pour les aider. Parce qu'on sait que le Garo Rock veut les tuer. Et Garo Rock, c'est un festival pour faire du fric. Mais en ayant la volonté d'écraser les autres. Alors, c'est pas un problème pour moi d'aller avec Mathieu, d'aller jouer dans des gens qui veulent faire du fric. Parce que, faut pas être faux cul. On monte sur scène, on vend des albums, on machin, etc. On est des capitalistes. Mais le capitalisme, on est très copains avec Mike Muir, de Suicidal Tendencies. On a des copains avec des Américains, des vrais Américains. Des gens pour qui c'est des valeurs. Et c'est une sacrée valeur, le capitalisme, le vrai, hein, pas l'ultra-libéralisme. Parce que c'est toujours lié à une valeur de travail, de récompense. C'est pas notre fondement. On vient plutôt d'un pays très communiste.
C'est le capitalisme qui vous permet de pouvoir faire tout ça à côté et de...
Non, c'est juste que, t'imagines à Live Nation, ce que j'ai dit sur The Run, là, sur scène, je l'ai dit aussi là-bas. Et le promoteur, il m'a dit, ouais, c'est... Bah super, bon, style, on est pas d'accord. Ouais. Il a dit super. Et le public, ils étaient là. C'est dans ces festivals, c'est, comme on dit toujours à Mathieu, c'est quand même plus intéressant d'aller discuter. Quand on est militant, c'est contre Monsanto, c'est facile de dire ici on est contre Monsanto, mais c'est au fin fond du Texas qu'il fallait le dire, on est texan. Ouais. Voilà, bah, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. C'est bon, voilà, c'est bien, mais à un moment, il faut faire. Et il faut aller là où il y a un nœud et pas culpabiliser les gens sans donner de la morale. C'est-à-dire que les Texans, ils ont aussi des raisons, des trucs très intelligents. Il y a des gros cons partout, et y compris partout. Donc non, on essaie d'appliquer nos convictions de machin et on essaie de pas... Voilà. Mais il y a plein de festivals où on n'ira pas, oui, effectivement, dont le Garo Rock.
Vous, ça a un peu explosé en Asie. Avec du recul, là, quelques années plus tard, pourquoi l'Asie et pas la France et pas... Le Japon, pardon. C'est une question de quoi? De culture, de...
Oui, c'est... si tu veux, on fait du rock'n'roll quand même à la base. La France n'est pas trop un pays de rock'n'roll. Donc nous, très vite, ça a pris effectivement au Japon, parce que tu sais, du fait des bases américaines qu'ils ont installées là-bas, eux, ils ont tout de suite été sensibilisés à la culture rock. Du fait des radios, par le blues, etc. Voilà. Et donc, du coup, ben... Nous, enfin, on a eu la chance à un moment donné, enfin, une circonstance qui s'est passée, notre album en fait est sorti là-bas, ça a plu, etc. Donc on a commencé là-bas. Et du coup, de fil en aiguille, si tu marches au Japon, on a fait des shows qui étaient bons, etc. Donc du coup, on nous a appelés après en Chine, à Taïwan, etc., en Corée. Et donc et oui, ça a pris effectivement en Asie, mais parce qu'ils ont une culture plus rock qu'en France. Mais là en France, depuis cet album, on commence à avoir un retour, tu vois, mais ce ne sera jamais une culture rock, la France. Tu vois, quand on va aux États-Unis, c'est pour ça qu'on a été mixer notre album à Nashville, c'est que Nashville, quand tu vas là-bas, ça sent ça sent ça. Ah non, mais c'est incroyable, c'est incroyable. C'est tout, c'est rock and roll, blues et tout ça, toutes ces musiques. Voilà, où t'écoutes à la radio, t'hallucines. Les guitares, ça fait peur à personne là-bas. Même en variété, le mainstream, c'est. Mais ici, quand tu. Nous, alors, on a la chance, on va pas cracher dessus, on a la chance d'être diffusé sur France Inter, sur cet album-là. Mais ils ont pris un titre super soft. Tu vois, ils diffusent pas. C'est un premier. Oui, oui, c'est un premier truc. C'est bien.
Oui, mais c'est. Merci à eux.
Ouais.
C'est en gros, pour être clair, merci à Didier.
Tout à fait, c'est super. Mais on sent bien que la France n'est pas un pays rock. Voilà, c'est pour ça que ça a pris ailleurs avant qu'ici. Voilà.
Interview de The Inspector Clouseau pendant le Cabaret Vert, on s'écoutait la chanson Two Days extraite du premier album. Je vous propose de retourner du côté de Charleville-Mézières avec The Inspector Clouseau.
Il y a un truc que je savais pas, apparemment, j'ai lu, vous avez aidé à faire tourner Charles Bradley, Sharon Jones, les choses de Dapkins, enfin de Daptone Record. Au début, comment ça s'est passé ça? Parce que vous n'êtes pas tourneur non plus à la base.
Bon, c'est à la fin de notre premier groupe, Wolfenkind. Où on faisait déjà tout seul. On avait développé un petit réseau, notamment on avait beaucoup joué en première partie de Fishbone. D'où ce qu'expliquait Mathieu, on est très copains avec Angelo. Et Alors, le sens, ça s'est passé... Bon, ouais, voilà. Et bon, on a commencé Clouseau, comme ça, et tout ça. Et on avait des copains, nous. Alors, il y avait Zuri Banda à Poitiers, il y avait Psych Up à Toulouse, il y avait les Slippers à Bordeaux. Et on avait quand même un petit réseau comme ça. Et on a commencé à leur dire, tiens, il y a machin, appelez-le, machin, et tout ça. Et au bout d'un moment, on s'est dit, bah, attends, on va leur faire. Et donc, on a monté des petites tournées comme ça, sans prétention. Il y avait vraiment un côté tourneur pour musiciens. Je sais pas comment expliquer ça,
ouais.
Tu vois,
ouais.
Puisqu'on n'était pas en activité, donc et on voulait pas rien branler, tu vois, voilà. Et on trouvait ça intéressant de repasser derrière le rideau, de servir les autres. Donc bon, voilà, on montait des tournées. Et alors là, on a Francis à Bordeaux, là, les filles.
Allez, les filles, hein.
Voilà, Francis est arrivé, il nous a dit on est peiné, il faut qu'on vienne voir, hein, ce soir, il y a un mec qui se de la bite, c'est énorme. Bon, il parle comme ça, je sais pas si c'est pas moi. Hein. Et voilà, c'est Francis. Et donc on va voir, et c'était Sharon Jones, parce qu'il était très copain avec Neil Sugarman, depuis Sugarman Free, depuis le label Desco avant. C'est des copains à lui qui lui faisait venir, qui faisait dormir avec la cassette et tout. Mais comme il a fait John Spencer, comme il a fait Fishbone, tout ça. Et on va voir, on était là, putain, super bien. Et là on rencontre Gabe et Neil. De Dapton, quoi, et il nous dit j'aimerais en épéné là, voilà, bon, voilà. Parce que nous on est des Landais, tu sais,
ouais.
Et lui c'est un Bordelais, donc on est des sauvages pour lui,
ouais,
tu vois. Les Landais, les Basques, on est tous des sauvages, hein. Tu vois, c'était ça, bon, mais il nous aimait beaucoup, mais il parle comme ça, Francis. Donc voilà, et on leur a dit, bah écoutez, c'était fantastique, on n'avait pas vraiment de réseau, mais en tout cas on a des plans. Et ni, ouais, on a monté un petit label, on trouve l'histoire très sympathique, hein, leur truc, quoi, c'est ce qu'on fait, nous, aujourd'hui, tu vois. Voilà, et on leur dit, bah écoutez, voilà, c'est génial. Alors, Neil nous appelle, il dit, voilà, l'album. Et on avait toujours notre deal de distrib, tu sais, des Wolf, via discographe. Et on l'appelle, on lui dit, bah on a des potes, là, c'est hyper bien, vous ne voudrez pas les sortir et tout. Si, bon, voilà, donc on a fait le relais de Dapton, on leur a trouvé une distrib, etc. Et après, on était très copains, c'est avec Jean-Louis Brossard, par exemple. Il me dit, c'est vous qui faites Sharon Jones? J'ai dit, on fait non, mais qu'est-ce que tu veux? Mais je voulais faire jouer à l'Ubu. Ah bon, bah, ça m'a bloqué. Et là, il y a eu plein de demandes. Ouais, ils nous ont appelé tous, et à un moment donné, Neil nous a dit, ouais, on peut pas le faire nous, vous pouvez pas le faire pour nous. Et, on vous paye, on vous donne 10 points, mais ça vous dérange pas. Bon, écoute, c'est pour la bonne cause, c'est hyper bien. C'est hyper bien, c'est super zik. Voilà, on a fait une première tournée à conduire le camion. Non, et après, pas fini, après. Après, ils nous ont dit, bon, on a un groupe, c'est Lee Fields, avec Sugarman Free. Je dis, ok, Lee, je te présente ici. Lee, on écoute, on fait, ouf. Pareil. Voilà, et après, ils nous font les Boudos Band. Je dis, ah, super. Bon, on a fait tout ça. Naomi Shelton, ah ouais, super. Menahan Street Band, ouais, super. On a fait tout ça. Et voilà, ça a duré quoi, 2-3 ans, mais c'était au tout début. Et après, Charles Bradley, parce que c'était à la fin et tout. Et après, il est parti. Et puis là, à ce moment-là, les Wolf, les Clouseau, pardon, commençaient à décoller. Et là, on a fait, et on a vu, à un certain stade, que le business,
c'est plus le même.
Non, et puis là il n'y a plus l'amour de la musique, la cassette, parce qu'on montait des tournées, on a appelé le disquaire Soul Funk de Berlin pour organiser la date de Sharon à Berlin, parce que c'était inconnu, tu vois, c'était que des passionnés. Et quand c'est rentré dans un truc très gros, très business machin, on a fait oula, ça c'est pas notre métier, et voilà. Et après ils sont partis chez Live Nation, et nous au Clouseau, voilà, et on s'est dit on va s'occuper. Par contre, on fait toujours un peu le relais pour Suicidal Tendencies, parce que Mike veut pas aller ailleurs. Alors on lui dit, bah tu fais chier, il dit non, j'ai pas confiance. Donc on fait le relais. On peut pas dire qu'on est tourneur, mais par exemple au SILAC, là, quand ils ont joué au SILAC, tu sais, festival, ils nous ont envoyé une offre, et il dit, vous leur dites? Je dis oui. Alors je dis à Mike, vous voulez faire ça là? Il dit, ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on va appeler un mec en Allemagne, on va voir. Voilà, c'est aussi un peu ça. On fait que coordonner, on n'est pas un peu, c'est un bien grand mot pour dire tourneur. Et on leur fait les contrats aussi pour qu'ils soient légaux en France, et on utilise la structure de Clouseau pour les embaucher, pour qu'ils soient légaux. Et à, ouais, à la punk et en échange, enfin c'est même pas en échange, c'est ils nous sortent les albums sur leur label aux États-Unis, et aux États-Unis on a l'agent de Suicidal qui nous book.
Qui est l'agent. Ça marche bien aux États-Unis là en ce moment.
Suicidal sort un album là avec Dave Lombardo, et juste là, et je te dirai après, je sais pas. Ah ben là, nous on est l'album précédent, oui, on a fait une première partie avec Suicidal, toute une tournée. C'était hyper bien, donc ça a créé un truc. Et après, l'album est sorti, ça n'a pas trop mal vendu, compte tenu du fait que bon, il faut gaver. Et on a vendu, je sais pas, 3 000, 3 500, ce qui est vraiment, vraiment bien. Et après, ben là, on attend de sortir le nouveau là-bas. Et justement, ben, notre agent, là, Est en train de travailler dessus. Normalement, on devrait faire une tournée sur mars-avril. Sûrement avec Suicidal, mais avec des trucs à nous. Et on continue à travailler. Ouais. Mais on commence à avoir un petit public dans certains endroits, hein. Notamment Austin et au Texas, tout comme ça.
Et là, les Clouseaux, ben, nous, de là où on a l'impression que ça marche super bien. Que ça tourne vraiment à mort. Que vous pouvez vous permettre de refuser des choses. Vous tapez tous les plus grands festivals de France. Je veux dire, c'est quoi la suite si vous voulez rester indépendant?
Non, là t'exagères, parce qu'en fait, déjà on roule pas sur l'or, je peux te dire, on gagne 1 500 € par mois, il faut qu'on l'album marche, comme j'ai expliqué, on s'endette pour represser nos albums, le livre là, que vous avez reçu, voilà. Là ça marche bien, etc. Alors on a joué aux Eurocans, alors par contre ce groupe a une faculté à attirer l'attention, c'est comme ça, on a constaté, il y en a un an, et ça sert à rien à voir en la musique. Ou peut-être un peu, mais enfin je sais pas. Et en tout cas, c'est vrai qu'en un concert aux Eurocans, on a l'impression qu'on a joué partout cet été.
Ouais.
Et c'est super, parce que l'année prochaine, du coup, on va pouvoir faire autre chose. Et sans saouler tout le monde, tu vois, en termes de trucs. Et parce qu'après, on s'est arrêté, après les Eurocans, on a ramassé le blé.
Ouais.
Bon voilà, après, si on continue pas, ouais, on a pas assez d'argent, il faut qu'on paie la ferme. On refuse des plans c'est des plans de. C'est des convictions. Enfin, on préfère ne pas avoir cet argent que, mais. Non, on roule pas sur l'or. Mais on a certains avantages à être indépendant. Donc on en profite par contre. Voilà.
Très bien, merci beaucoup les mecs.
Ouais, merci à vous. Toujours au plaisir.
The Inspector Clouseau au Cabaret Vert, je vous propose d'écouter la chanson I'm a Japanese Mountain, extraite du dernier album de The Inspector Clouseau, Rock Farmers.
this game.